Radio Scénic, Éric Dauterre, bonjour. Danser, chanter et danser. Voici deux verbes qui réunissent les deux spectacles que nous invitons aujourd'hui. Côté chant et danse, c'est Adèle Berry, une comédie musicale enthousiasmante, signée Janowski. Ce spectacle réunit ou réunissait, on verra la nuance dans quelques minutes, ce spectacle réunit donc une troupe de 14 chanteurs-danseurs talentueux et 4 musiciens acoustiques autour de l'histoire d'une jeune fille en 1881. Elle s'appelle Adèle Berry, donc elle est paralysée et en fauteuil, mais grâce à des souliers miraculeux, elle va pouvoir marcher, mais seulement la nuit, et elle découvrira le Londres nocturne et interlope. Pour nous en parler, nous avons invité Janowski, qui en est l'auteur et le compositeur, à ses côtés Céleste Hauser, qui tient le rôle-titre d'Adèle Berry. On les retrouvera dans quelques minutes. Elle, c'est sa dernière danse qu'elle interprète devant nous. Elle, c'est Mata Hari. Et la dernière danse de Mata Hari, c'est le deuxième spectacle que nous convions aujourd'hui dans Radio Scénic. Ça nous a réconciliés avec le théâtre dit immersif où les comédiens côtoient au plus près le public. Mata Hari, c'est Tara Caillet. Elle est avec nous en studio. Elle est l'autrice, metteuse en scène de ce spectacle que l'on peut voir au bar Le Vieux Carré. Avec elle, Carlotta Antonucci, qui interprète Anna Ligens, la tenancière du bar où nous sommes accueillis. Danse, voici le mot du jour de cette 27e édition de votre magazine du théâtre sur Allegre FM. Vous avez le programme, éteignez donc vos portables et baissez la lumière. Voici Radio Scénic.
Radio Scénic par Éric Dauterre. Le théâtre sur Allegre FM.
Sur scène, la petite chambre d'Adèle Berry, son lit, un piano, et elle en fauteuil. Adèle est handicapée. À côté d'elle, Emma, sa gouvernante. Adèle est orpheline et elle habite chez une tante aimante mais un peu autoritaire. Adèle est de nature joyeuse et ce qui devait être une rébarbative leçon de piano se transforme en joyeux quatre mains très animés. Nous sommes au début de l'action. Adèle Berry, la comédie musicale, extrait.
Jouer sa vie à quatre mains, c'est bien plus joyeux que la broderie et le latin. Jouer sa vie à quatre mains, ça vous met de l'ardeur en chemin. Tandis que l'un d'entre eux entretient la cadence, l'autre plus hardi se jette dans la danse. Qu'importe si les doigts volent sur le clavier, qu'on retombe sur ses pieds.
Joue et ça
à quatre mains, c'est moins ennuyeux que la broderie et le latin.
Joue et ça
à quatre mains, toute la vie vous appartient. La plus extravertie chamboule la mesure, les mains sont assorties prêtes pour l'aventure.
La moins irréfléchie recadre le crapaud.
Je monte d'un palier, au fond rien ne m'arrête. Le quatre mains bardi, c'est comme la courte échelle. Tandis que je fléchis,
on veut de plus belle.
Joue et ça
à quatre mains,
c'est tant que les cantates et le clavecin.
Joue et ça
à quatre mains,
c'est tant d'étoiles qu'on étreint.
Tandis que l'un des deux s'agrippe à sa boussole, l'autre moins frileux peut prendre son envol. Qu'importe si les doigts quelquefois s'entremêlent.
Pourvu qu'on retombe sur sa selle.
Pourvu qu'on retombe sur sa selle.
Joue et ça
à quatre mains.
Mieux que la maison d'Alexandre.
Joue et ça
à quatre mains.
Dans l'étoile qu'on étreint.
Tandis que l'un d'entre eux entretient la cadence, l'autre plus hardi se jette dans la danse. Qu'importe si les
Qu'est-ce que vous me faites faire ?
Et oui, tout le monde sourit après ça. Janowski, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes auteur, compositeur et interprète et à l'initiative de ce spectacle Adèle Berry. On s'apprêtait à le recommander très chaudement à nos auditeurs, mais voilà, je dis, votre équipe nous a prévenu de l'arrêt de l'exploitation de votre comédie musicale au Théâtre des Jazets. Qu'est-ce qui s'est passé ? On va jouer la clarté avec les auditeurs.
Mais oui, on va jouer la clarté. Eh bien écoutez, on est dans un théâtre magnifique, hein, le Théâtre des Jazets, parce que c'est quand même le plus vieux théâtre de Paris, 1770, et qui est complètement approprié pour le spectacle d'Adèle Berry, qui lui se passe un siècle plus tard. Donc on est vraiment dans le lieu. Et après, effectivement, il y a eu des soucis de communication. Et on s'est dit, bon voilà, on a fait une très 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 belle série, arrêtons-la et revenons. C'est une première étape et revenons à la rentrée certainement pour continuer la grande aventure Adèle Berry.
Voilà, oui, donc, oui, et puis dans l'attente que vous retrouviez un théâtre, ce qui ne manquera pas de se faire parce que le spectacle a eu un succès du public et un succès d'estime, hein, on a quand même convenu de ne pas priver nos auditeurs de la qualité de votre travail. On a maintenu notre invitation à venir dans le studio d'Avec la Ferme. Céleste Hauser, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes danseuse, chanteuse et comédienne. C'est vous, Adèle Berry, donc le rôle titre, qui est-elle ? Alors on l'a dit, elle est paralysée, elle est dans son fauteuil.
Voilà, tout à fait. Adèle Berry, c'est une personne qui est prisonnière voilà, de la condition des femmes à l'époque victorienne de l'Angleterre, donc on le rappelle. C'est pas une époque très chouette pour les femmes et on va la suivre au travers de sa quête de liberté. Et les bottines vont être vraiment l'élément déclencheur du début vraiment de son histoire, de sa rencontre avec le monde et de sa rencontre avec elle-même surtout.
Oui, parce que Janowski, dans l'histoire de cette jeune fille plutôt bourgeoise plongée dans le Londres des voleurs et des voyous, on pense au roman réaliste de la fin du 19e siècle, on pense à Mark Twain, on pense à My Fair Lady.
Effectivement, il y a toutes ces influences-là. On pense aussi à l'Oliver Twist de Dickens, j'imagine, puisqu'il est question de petits voleurs dans les bas quartiers de Londres. J'avais été fortement marqué aussi par une œuvre de London qui est une œuvre, en fait, une plongée quasi, comment on pourrait dire, un reportage fait dans la Londres de la misère sociale de la fin du 19e siècle, parce qu'il est beaucoup aussi question de ça dans Adèle Berry, c'est-à-dire de cette rupture de cette, entre deux mondes, c'est-à-dire le monde de l'aristocratie, de la richesse et puis une immense pauvreté.
Parce qu'effectivement, Céleste Hauser, vous qui jouez Adèle Berry, elle est protégée dans son milieu. Il y a sa tante un peu acariâtre, mais qu'il aime beaucoup. Il y a sa complice, on va dire, c'est sa gouvernante, mais c'est son amie complice, celle qui la protège, qui la surprotège même. Et à un moment d'inattention, et vous rencontrez...
Je rencontre un magnifique cordonnier qui s'appelle Nicolas, absolument magique, qui va me donner ses bottines, qui va m'en faire cadeau. Et à partir de ce moment-là, Adèle, elle va n'avoir plus qu'une idée en tête, c'est de pouvoir mettre les bottines et pouvoir s'échapper, voilà. Et donc, ça va être assez fantastique. Elle va passer vraiment d'un milieu, comme vous dites, où elle est absolument préservée de tout, c'est-à-dire qu'elle ne connaît absolument rien du monde extérieur, à justement voilà, la folie, la sauvagerie et puis la différence de l'extérieur.
Et ouais. En même temps, parce qu'il n'y a pas de bon compte sans une certaine menace, sans certaines conditions, les bottines d'Adèle Berry ne fonctionnent que la nuit. Et puis, il ne faut surtout pas qu'Adèle dise qu'elle a des bottines magiques.
Ah oui, non, c'est un secret. Et puis, il faut bien qu'elle respecte les consignes. Nicolas insiste bien, il y a vraiment un protocole à suivre pour ces fameuses bottines.
Côté musique, Janowski, on pense aux opéras réalistes de Brecht et Kurzweil ou à la musique Klezmer. On vient de l'entendre dans cet extrait. La clarinette joue un rôle particulièrement important. Hein. La formation, c'est clarinette, piano, batterie et j'en oublie une, et violoncelle.
Et violoncelle, exactement. Exactement.
Cette clarinette, c'est pas innocent dans les racines de la musique, soit Klezmer, soit yiddish, soit est-européenne.
Oui, mais vous l'avez bien deviné, de toute façon, par mon nom Janowski et par mes incohérences et mes affinités, j'aime la musique d'Europe de l'Est. D'ailleurs, dans cette série qu'il y avait aussi au Théâtre des Jazets, il y avait Zorbalov et l'orgue magique, un conte pour enfants que j'avais créé avec l'Orchestre de Radio France, avec National de France, et où il était question que de musique d'Europe de l'Est. Tous ces noms, Tchaïkovski, Stravinsky.
Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour monter une comédie musicale à l'heure des seuls en scène ? Parce que vous êtes 14, hein, c'est ça, Céleste, corrigez-moi, vous êtes 14 chanteurs et danseurs.
Alors il me semble, mais c'est vrai que nous sommes beaucoup, donc on a du mal à se compter.
Plus 4 musiciens en direct, en acoustique. Alors ils sont amplifiés pour obtenir une balance parfaite entre le chant, parce que vous bougez beaucoup, entre le chant et la musique, mais c'est de la musique jouée en direct.
Comment est-ce qu'on arrive à cette idée complètement folle de faire monter 18 personnes sur scène?
Alors, il y a toute une histoire derrière. Ce fut d'abord à l'origine une commande du CRR de Saint-Maur-des-Fossés, qui a vraiment une classe de comédie musicale assez époustouflante.
Donc, le conservatoire à rayonnement régional, c'est
quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Et il y a quelques années, en fait, il m'avait invité parce qu'il chantait une de mes chansons pour la représentation de fin d'année. Et là, j'avais été subjugué, mais véritablement subjugué par le niveau, en fait, Et par les professeurs, notamment la professeure de danse qui est aujourd'hui la chorégraphe. Et donc ils m'ont fait une commande, tout simplement. Et puis, fort du succès, on a décidé de, entre parenthèses, professionnaliser le spectacle. On refait des auditions. Et donc, comment on fait? Eh bien, déjà, il faut avoir un metteur en scène exceptionnel comme Emmanuel Touchard, sa rigueur, son intelligence et son émerveillement. Il faut avoir une compagnie profondément unie, artistiquement et humainement.
Alors justement, on va demander à Céleste Hauser, qui fait partie de cette compagnie. Vous avez été recruté parmi, je crois, il y a eu 460 auditions. Hein. Vous avez été recruté. Comment est-ce qu'on arrive, en ayant le rôle principal, à faire corps, à faire troupe? Parce que c'est cette impression qu'on a là aussi. Lors des saluts, on n'a qu'une seule troupe avec un grand monsieur derrière qui est Yanovsky, qui fait 2 mètres, hein, pour que nos auditeurs le sachent, et qui est comme planqué, modeste derrière sa troupe. Comment est-ce qu'on arrive à faire corps?
Ben, vous l'avez dit vous-même, on arrive à faire corps grâce à justement l'unité du groupe et la force que l'on se donne tous ensemble. Je pense que c'est vraiment... l'ensemble qui fait la force dans ce spectacle aussi, et c'est pour ça qu'on est aussi unis et heureux de porter ce spectacle. C'est vraiment l'énergie commune, je dirais.
Alors je vous ai interrompu, Yanovsky, pour faire parler Céleste Hauser. On en était à l'historique, donc commande d'une œuvre,
professionnalisation, et surtout, et là vraiment je mets un accent là-dessus, Richard Perron, qui est le producteur d'Adèle Berry, qui était l'administrateur de Maurice Béjart pendant une trentaine d'années, lui-même ancien danseur, parce qu'il était danseur de l'opéra, et puis ensuite il est rentré dans la troupe, et il a fallu vraiment, parce que vous avez parlé clairement, aujourd'hui, si vous voulez, qu'on voulait faire une comédie musicale qui n'existe pas, que personne ne connaît, qui ne soit pas une reprise sempiternelle de comédie musicale française ou américaine, anglo-saxonne, il faut un aventurier et il faut un poète. Hein, parce que, si vous voulez, personne aujourd'hui ne serait allé nous produire et dire « Oh oui, on va prendre 14 personnes sur scène ». Moi, quand j'essaie de faire des spectacles avec 3 personnes, les gens me disent « Ah oui, mais bon, c'est extrêmement cher, le contexte culturel, etc. » Donc vraiment, on tient à le remercier parce que c'est un aventurier. Il a dit « Je vais mettre mon propre argent sur cette aventure ». Et il y a cru. Et là où personne n'y croyait. Et aujourd'hui, eh bien, on a la presse. Et aujourd'hui, on a des stand innovation de 10 minutes à la fin. Et on ne peut que remercier cet aventurier de l'art et de la culture qui nous sauvera de bien des dangers que nous connaissons.
Hier dimanche, effectivement, vous le disiez, hier dimanche, c'était dimanche 8 mars, c'était la dernière, provisoirement, la dernière au de Jazet, Standing Ovation, salle complète. Hein.
Salle complète,
oui. Qu'est-ce qui se passe avec le spectateur? Qu'est-ce qui fait que toute l'équipe de Radio Scénic est allée voir ce spectacle? On se fait prendre et ça marche. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en étant grincheux au possible, hein, ce qui est la définition de tout critique, on arrive à se faire prendre par la magie? Qu'est-ce qui se passe sur scène?
Je crois qu'il y a de l'émerveillement. Je vais essayer de répondre. Je crois qu'il y a de l'émerveillement. Je crois qu'il y a un lien avec l'enfance et que en une période tellement difficile, tellement brutale, tellement violente, et je ne parle pas que de la guerre, je ne parle pas que du contexte social, je ne parle pas que de la montée des fascismes et du totalitarisme dans le monde, je parle aussi de l'intelligence artificielle qui nous amène vers une déshumanisation. Là, tout d'un coup, le spectacle vivant, c'est le seul endroit aujourd'hui où on se retrouve non pas pour un communautarisme, mais tout simplement parce qu'on fait partie de quelque chose qui s'appelle l'humanité. Voilà.
On va retrouver, moi je vous propose qu'on retrouve Adèle de nuit, hein, Adèle Berry. Une Adèle valide le temps de la nuit, une Adèle qui a ses bottines aux pieds et qui découvre le Londres nocturne et interlope et ses petits métiers. Adèle Berry, un nouvel extrait.
Oh, dites-moi, madame, oh, cet homme là-bas, que fait-il avec ses casseroles?
Lui, c'est le retimer. Tout ce qui est casserole, poêle et chaudron, c'est cet imbécile qui les répare.
Oh, et celui-ci?
Lui, c'est le raccommodeur de toile. Allez, viens, ma petite, je vais te montrer ce que c'est la vraie vie, moi.
Semblable au couteau qui s'égoussole, nous ne cessons point d'imprimer muletiers ou rémouleurs, il faut bien gagner sa vie.
se semble contrite et fatiguée. C'est que le ciel est à nos trousses et que tourne le sablier. S'il est vrai que le travail nous procure la santé, alors je crains qu'il ne faille le laisser aux éclopés.
Moi, je suis le prince de la Suisse, celui qui brille et brosse vos cheminées. C'est ainsi, la vie nous endurcit. Vous ne verrez jamais mes yeux deviner. Vous ne verrez jamais, dommage, la vraie couleur de mon visage, le blond doré de mes cheveux, tant je travaille jour et nuit dans ma cage.
Le sol brûle, la mer, l'or et la mer, on se trouve les rues, dans les rues, 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 les rues.
Charme les oiseaux, je charme les hommes, adossés à la ronde, les dames se donnent. Des étourneaux, des hirondelles, des maisons, des oiseaux,
des lorions,
tous ces rires dont on lave
font un manteau de couleur. Quand ce sera notre galère, le matin du Saint-Sacrement, quand irons-nous nous mettre au vert, lorsque les poules auront des dents.
Dieu a toujours
de cigares. Si tout passe, si tout casse, je besogne tous les soirs. Une fois que la coupe est pleine, je les colle bout à bout. Voici comment se démène ce qui naissent sans le sou.
Il ramasse dans sa nasse de vieux morceaux de cigares. Si tout passe, si tout casse, il besogne tous les soirs. La chique prend dans la veste.
Radio Scénique par Éric Dauter. Le théâtre sur Aligre FM.
Aujourd'hui, le thème du jour de notre Radio Scénique, c'est danser. Nous sommes toujours en compagnie de Céleste Hauser, interprète du rôle-titre d'Adèle Berry, dont les représentations ont hélas dû s'interrompre de Jazet et de Janowski à l'initiative de ce beau projet dont on espère bien qu'il sera repris ailleurs, mais on en reparlera. Musicalement, c'est un bonheur. Hein. On était tous en train de parler de grâce, là, ici. Autour des micros, il y a pas de bande enregistrée, il y a violoncelle, piano, percussion et clarinette. Ce sont des instruments qui dispensent la chaleur et l'émotion de la musique en direct. On peut d'ailleurs citer les musiciens.
Alors, il y a un double cast.
Oui, il y a des alternants.
Je vais demander d'être aidé parce que je vais avoir des trucs mal. Alors, Pauline Buet au violoncelle.
William Fruchot au piano.
Au piano.
Alors, William Fruchot qui a fait l'orchestration.
Non, c'est pas bien frigo. Alors, l'orchestration, c'est Emmanuel musique, Martin, qui est aussi professeur de musique au CRR de Saint-Maur. Et aussi, un clin d'œil à lui, parce que vraiment, quel talent. Il a toutes les cultures. Il a la culture de la comédie musicale, il a la culture classique, il a la culture de jazz. Et donc, à chaque fois qu'il m'a proposé des orchestrations, c'était exactement ce que j'imaginais. C'est sidérant. Je le remercie au passage.
Alors, le pianiste, c'est lui aussi qui donne le tempo.
Alors, mais lui, il a une responsabilité énorme. Parce qu'on a des danseurs sur scène, il change le tempo.
Vous avez 14 personnes qui doivent suivre le tempo.
Et tout est millimétré, il change le tempo et il plante tout le monde. Donc vraiment, c'est un peu le fil à plomb. C'est un peu le fil à plomb de tout ce spectacle.
Et les danseurs l'ont dans le dos, hein, c'est-à-dire qu'à aucun moment, ils ne peuvent le voir.
Exactement. Exactement.
Alors, côté musicien.
Donc, j'ai dit Pauline Buet au violoncelle, William Fruchot au piano, percussion, Timothée Guesland, et puis à la clarinette, Émilien Verret.
Alors, on l'a entendu, il y a cette espèce de... Cette chaleur, elle vient aussi du fait que les instruments sont acoustiques et que l'orchestre est présent sur scène.
Bien sûr, bien sûr. Ça aussi, c'est assez exceptionnel, et c'est encore la volonté et de Emmanuel Touchard et aussi du producteur, c'est-à-dire de faire de la vraie comédie musicale à l'ancienne, comme on le faisait dans les années 50-60. C'est une prise de risque, mais en même temps, du coup, on le reçoit, comme vous l'avez dit, en chaleur, en émotion.
Et côté chant, on l'a entendu, c'est des voix pures, sans trémolo ni effet inutile. Hein. Céleste Hauser, comment est-ce que vous avez travaillé? Parce que Adèle Berry s'est signée par Janowski, certes, mais c'est mis en scène, vous l'avez dit, par Emmanuel Touchard et Frédéric Borsarello, très à l'aise, et c'est chorégraphié par Laurence Pérez. Donc, il y a ce mélange de talents. Vous l'avez dit, vous êtes... danseuse et chanteuse, la comédie là-dedans qui doit venir par-dessus. Vous êtes plus comédienne, plus chanteuse, plus dans Adèle Berry.
J'aime dire que je suis les trois, ou que je n'aime pas faire l'un sans l'autre, et ni l'autre sans l'un. Enfin, voilà, j'aime vraiment, et c'était le bonheur justement pour moi d'appréhender le rôle d'Adèle, parce qu'il réunit absolument la corporalité, qui est d'ailleurs très intéressante à travailler, parce qu'il faut dissocier le plus possible le bas du corps avec le haut, c'est-à-dire vraiment faire ressentir
vous êtes
au
handicapé,
public,
ouais,
tout
ouais.
à fait, faire ressentir au public des jambes lourdes, vraiment, le travail du fauteuil, qui est aussi pas facile. Donc voilà, c'était un vrai travail très intéressant pour moi, et justement, ajouter le théâtre et le chant, c'était pour moi voilà, le plus beau cadeau. Que je pouvais espérer.
Ouais. Alors, Janowski, il est là, enfin, il a donné son texte à un metteur en scène, à une chorégraphe. Est-ce qu'il était très présent? Est-ce que l'auteur était présent pendant le... Alors, en dehors du fait qu'il est sur scène, est-ce qu'il était présent pendant l'élaboration de ce spectacle?
Bah, j'ai envie de vous dire oui, toujours, parce que c'est son univers, c'est sa musique, son imaginaire qui nous traverse toutes et tous. Donc, évidemment que Yann était avec nous pendant tout le cheminement, même si ce n'était...
Mais alors, je tiens à dire quand même quelque chose, c'est-à-dire qu'en même temps, évidemment, c'est l'œuvre que j'ai écrite, et j'avais vraiment une volonté très consciente de me dire, voilà, moi j'ai complètement confiance d'un côté avec le metteur en scène, la troupe, et aussi la chorégraphie, et je voulais absolument pas, je leur laisse en fait complètement, je ne suis pas intervenu dans les auditions, je n'interviens à aucun moment parce que j'ai une confiance absolue, et je veux me laisser moi-même. Par exemple, donnons un exemple, je suis doublé sur le personnage de Fess Demnebel, le méchant, et j'ai été surpris, en fait, ils ont choisi un personnage, et c'est un autre Fess Demnebel, et voilà, c'est ce qui est intéressant en tant qu'auteur et compositeur, c'est d'être surpris, et de ne pas s'enfermer soi-même dans la vision qu'on a, et je n'ai jamais cessé d'être surpris jusqu'à hier soir, en fait, en les regardant plein d'admiration.
Alors, avec l'ajournement d'Adèle Berry, c'est toute une série de spectacles signés de votre main, Janowski, dont on va être privé. Alors justement, j'ai envie d'en savoir un peu plus sur votre univers musical et le Cirque des Mirages que vous avez créé il y a de ça 26 ans avec Fred Parker, votre compère pianiste.
Oui, oui, ça ne nous rajeunit pas. Hein. 26 ans d'aventure, de tournée, de concerts, d'albums.
Alors c'est quoi le Cirque des Mirages?
Alors le Cirque des Mirages, c'est un duo piano-voix dont j'écris les textes et dont on écrit la musique à deux. Et c'est un univers, c'est un tour de chant avant tout, et c'est un univers complètement fantasmagorique. L'idée, c'est que chaque chanson est une histoire, donc une mini-histoire, une nouvelle, une mini-comédie musicale qui nous fait basculer dans le cabaret expressionniste. Alors c'est insolent, c'est parfois suffisamment engagé pour qu'on ait des menaces de mort, mais c'est intéressant.
Vous venez pas de nulle part entre vos racines espagnoles, je crois, le fait que vous ayez été baigné dans un univers artistique.
Oui.
Vous n'aviez pas le choix, il fallait faire du...
Non mais c'est ça, je suis un enfant de la balle, mes parents en fait venaient d'un milieu très défavorisé, immigration... milieu ouvrier, etc. Ce sont des espèces de fractures sociologiques. Je ne sais pas comment ils ont réussi à échapper à ce déterminisme social pour devenir des artistes. Et donc, moi, j'ai vécu toute mon enfance sur les plateaux, avec eux. Et à la maison, il y avait des chanteurs de flamenco, des travestis, des gens du cabaret, des gens... Et puis, c'était les années 80 où on pouvait dire, tiens, mon père dit, ah, bah, on n'a pas de sous, bah, tiens, je vais aller faire régisseur dans tel théâtre. Tiens, je vais faire le taxi pour Denise Gray, mon père, il a fait celle et la charrette. Voilà, on pouvait encore se débrouiller. Et à la maison, il n'y avait pas beaucoup d'argent, mais il y avait toujours des spaghettis pour tout le monde.
Alors, votre univers, à vous, revenons à votre univers, il est expressionniste ou baroque, et l'interprétation, elle n'est jamais loin de la narration. J'ai envie de parler de Jean Guidoni, de Juliette, comme univers pour décrire votre univers aux auditeurs qui ne vous connaissent pas.
Mais vous avez raison, c'est cette tradition-là, c'est notre tradition de la chanson française qui n'est pas de la pop. C'est vrai qu'il y a eu un moment dans l'histoire de la chanson où la pop, ou l'industrialisation en fait, l'industrie, je voulais dire, de la musique a fait qu'on a basculé vers la pop anglo-saxonne. Et tout cet univers qui est le nôtre en fait de la chanson interlope, qui est née à la fin du 19e siècle dans les vieux cabarets parisiens, a fini par s'estomper. Et puis il y a encore des souches qui, avec Jean Guidoni, Juliette, ont fait partie de cette tradition-là, qu'on revendique.
Alors c'est une tradition de chansons fantastiques, hein, je vous cite, chansons fantastiques au sens littéraire du 19e siècle, chaque chanson est comme une nouvelle, une histoire, avec le surgissement dans la réalité d'une situation inhabituelle. Finalement, de vos chansons à une comédie musicale comme Adèle Berry, il n'y avait qu'un pas à franchir.
Oui, c'est juste une continuité. C'est une chanson du Cirque des Mirages qui, au lieu de durer 8 minutes, dure 1h30. Et avec 15 personnes ou 20 personnes, c'est plus cher.
Céleste Auzerre, vous connaissiez le travail de Janowski avant de le rencontrer? On doit avouer ici qu'on ne connaissait pas votre travail et on le regrette bien.
Alors moi aussi, j'ai bien regretté de ne pas avoir connu le travail de Janowski avant. Et je me souviens très bien, nous sommes allés au bal Blomet avec toute la troupe applaudir Janowski et Fred Parker. Et c'était absolument une révélation aussi pour moi, parce que j'ai aussi grandi avec des parents musiciens, vraiment toute ma famille musicienne, et donc avec la chanson à la maison du matin jusqu'au soir. Et donc voilà, cet univers me parlait aussi. Ouais.
Alors pour ceux qui veulent avoir une sorte de syncrétisme en matière musicale entre la tradition yiddish, le monde slave et le tango, toutes racines que vous revendiquez haut et fort, il faut suggérer aux auditeurs. On donnera un certain nombre de dates où on peut vous retrouver. Pas encore Adèle Berry, mais c'est en négociation, c'est en recherche. Vous êtes à la recherche d'une salle.
Ça y est, on travaille dardard pour une rentrée fracassante avec le public qui nous réclame. Donc voilà, on est parti.
Alors concernant encore votre univers, Janowski, vous n'hésitez pas à jouer. Alors je ne vais pas parler de provocation, c'est un mot un peu galvaudé, mais à faire des descriptions assez sordides dans certaines de vos chansons. Ce sont des univers parfois sombres. Que vous décrivez là.
Oui, Paris, tu m'as donné ta boue et j'en ai fait de l'or. C'est-à-dire qu'il y a cette volonté d'aller chercher la vitalité, la vie dans les bas-fonds, dans les choses les plus sombres, mais toujours pour les ramener à la lumière. Voilà, c'est comme ça qu'on travaille quand on est un alchimiste.
Alors, pour retrouver l'alchimiste et le Cirque des Mirages, en fait, pour vous retrouver à Paris, il faudra attendre le 29 juin. Ça s'appelle La Louve et ce sera au Bouffe du Nord. Qu'est-ce que c'est que la Louve, hein?
Ah, alors ça, c'est une commande de la Belle Saison, qui est une tournée en fait de musique classique. Ils ont fondé une académie avec des gens du CNSM. Et en fait, c'est un conte fantastique qu'on m'a commandé, que je vais réciter sur scène. Et l'idée, c'est vrai que dans la musique classique, finalement, on a Le Masque de la Mort Rouge de Capelet sur un texte de Poe, on a La Chute de la Maison Usher, mais la tradition fantastique n'a pas été complètement développée, notamment en fait, au XXIe siècle. Donc c'est la Belle Saison, ils ont dit voilà, nous on veut marquer le XXIe siècle par une œuvre française fantastique, et compositeur Corentin Aparelli, un jeune compositeur. Et alors La Louve, c'est voilà, je peux pas tout raconter sur La Louve, mais
c'est le 29
c'est
juin.
C'est sulfureux en
voilà,
tout cas.
Voilà, c'est le 29
vous
juin.
Le dit.
C'est au Bouffe du Nord. Céleste Auzerre, Janowski, merci. Tiens, avec vous, on parlait à l'instant d'un conte sulfureux. Voici celui du terrible enfant à gueule de chien, signé Janowski.
Approchez, mesdames et messieurs, approchez dans le grand Cirque des Mirages et venez assister pour seulement 10 pence à notre fabuleux spectacle où vous pourrez contempler des créatures plus difformes les unes que les autres, énigmes de la science et de la nature que nous avons rapportées des quatre coins du monde afin de rassasier votre curiosité sans borne. Alors, n'hésitez pas à entrer, mesdames et messieurs. C'est dans les faubourgs de Londres, sur des ruines sans âge, que s'élève en secret le Cirque des Mirages. Des créatures énormes, des monstres atrophiés, des animaux difformes, des hommes sans visage. C'est bien dans cette enroulante qu'on exhibe le soir des créatures atroces ou des lustres bizarres. Et maintenant, mesdames et messieurs, maintenant, je vous demande le plus grand silence et la plus grande attention, car le terrible enfant à gueule de chien va descendre de sa case.
Mesdames et messieurs, le terrible enfant à gueule de chien. Vous voyez comme il a l'air piteux et maigre dans sa cage avec sa gueule de chien et son corps d'enfant. Et pourtant, mesdames et messieurs, il va danser pour nous ce soir. Allez, tu vas danser, sa fille. Et tu vas danser, oui. Tiens, prends ça. Allez, qu'est-ce qu'il te prend? Je vous prie de l'excuser, mesdames et messieurs, mais il est un petit peu intimidé. Il va danser. Allez, tiens, vas-y, danse. Allez, tu vas danser, oui. Ça y est. Ça y est. Il fait un premier tour sur lui-même. Alors, regardez. Il pleure en même temps, mesdames et messieurs. Voilà. Il fait un second tour sur lui-même. Ça y est, il est emporté dans la danse. Regardez avec quelle habileté il se meut. C'est formidable. Je crois que le terrible enfant chien danse pour nous ce soir. Le spectacle a commencé, la foule a, tandis que sur la scène, les monstres se pavanent. Les hommes bouffent de rire, s'étranglent, puis ricanent. Les femmes s'égosillent et lancent des chicanes. Et si vous aussi vous passez des chevaux, un animal difforme ou un enfant atrocier, n'hésitez pas à nous le confier et nous vous le rachèterons pour seulement 10 pence.
Radio Scénique par Éric Dauter. Le théâtre sur Aligre FM.
Radio Scénique sur Aligre FM 93.1 qui se consacre aujourd'hui à deux spectacles qui ont en commun la danse. Après Adèle Berry, voici la dernière danse de Matahari au Vieux Carré. Voici comment on est accueilli quand on rentre dans ce bar du 11e arrondissement, en direct dans nos studios, Tara Caillet dans un extrait de la dernière danse de Matahari.
Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureuse de retrouver le Vieux Carré si rempli en ces temps malheureusement si troublés. Ceux qui me connaissent, ou du moins ceux qui ont déjà eu la chance de me voir sur scène, savent qu'habituellement ce n'est qu'après avoir dansé que je me montre. Mais cette soirée annonce un vent de changement, alors soyons fous. Je tiens à tous vous remercier d'avoir pris part aux enchères. Cela me montre bien que même si cela fait maintenant plusieurs années que j'ai donné mon tout premier spectacle au Musée Guimet à Paris, eh bien, Paris m'ouvra à nouveau les bras. Vous prouvez à tous, ici ce soir, que l'art, le vrai, perdure dans le temps. Alors, chers amis, oublions pendant un court instant le triste quotidien que la guerre nous impute et profitons ensemble une dernière fois dans ce merveilleux bar tenu, il faut le dire, d'une main de maître par une amie chère à mon cœur et sans qui rien de tout cela n'aurait été possible, Anna. Mes chers amis, trinquons à cette soirée inoubliable.
Tara Caillet, bonjour.
Bonjour.
L'extrait que vous venez de jouer au tout début de ce spectacle, la dernière danse de Matahari, mais le spectacle il commence de manière originale et dans la rue. En fait, on fait l'appel des spectateurs dehors, hein, devant ce bar du 11e arrondissement, rue de Montreuil, à qui on distribue une carte et une nouvelle identité. Une fois passé la porte, chacun de nous devient spectateur. Comment est-ce qu'on qualifie ce spectacle? Alors, spectacle immersif, c'est être purement factuel, mais qu'est-ce que vous proposez avec la dernière danse de Matahari?
Alors, je propose, bien sûr, c'est un spectacle immersif et surtout participatif. Je propose aux spectateurs de vraiment prendre part à l'histoire de Matahari, à la comprendre de l'intérieur. Et pour ça, c'était important qu'une fois passé le bar, on est complètement en 1907 pour cette dernière représentation. Donc voilà, comprendre mieux comprendre et mieux connaître l'affaire Matahari.
Alors chacun de nous, chaque spectateur, est pris par la main et fait partie d'un groupe. L'après-midi où je suis venu, puisque vous jouez à 16h30, je faisais partie d'un groupe de Russes. Et j'étais avec
Vadim Maslov.
Avec Vadim Maslov, merci, qui est un soldat, un jeune homme, fils de militaire, qui revient de la guerre et qui est seulement amoché hein, au visage.
Oui. Il s'est pris une petite bombe en vol, puisque c'est un aviateur, et que c'est bien évidemment pendant la guerre. Mais oui, tout le monde vient dans un groupe différent, une intrigue différente, et chaque intrigue propose une facette, de voir une facette de Mata Hari, de comprendre une facette de l'histoire.
Alors, chacun peut choisir son avatar lors de la réservation. Bah, je ne l'avais pas choisi. J'aurais pu me retrouver avec Carlotta Antonucci. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, vous, Annaline Jens, la tenancière du bar Le Vieux Carré, un bar du 11e arrondissement où on est convié.
Oui.
Et vous n'êtes pas commode.
Ah oui, je me rappelle d'un échange avec vous, Eric, où vous m'avez dit que je n'étais pas très commode. Mais c'est vrai, mon personnage... Alors, c'est pas qu'il n'est pas commode, je la décrirais plutôt comme une femme forte qui doit tenir un bar en 1916 toute seule, et donc qui, oui, doit être assez ferme, et pour donner un petit... elle n'aime pas trop ce Vadim Maslov, et comme vous étiez avec Vadim Maslov, oui, vous avez eu un tout petit peu mes foudres, c'est vrai.
Alors effectivement, pour décrire, alors à titre personnel, Vadim Maslov m'a demandé d'aller chercher la bouteille qu'il avait réservée au bar, donc... la tenancière du bar, c'est Annalie Jens, qui m'a prié de dire à Vadim Maslov de faire ses commissions lui-même. Alors, j'aurais parfaitement pu me retrouver avec d'autres personnages comme Georges Ladoux. Qui est Georges Ladoux ?
Georges Ladoux, c'est le chef du service d'espionnage et de contre-espionnage français à cette période, donc comme très important. Et voilà, donc les personnes qui vont faire partie de son intrigue vont être des collègues de travail, des agents spéciaux, en tout cas à travailler dans la sécurité pour la France. Et bien évidemment, ils ne sont pas présents sans raison, mais je ne vous dis pas pourquoi, je vous laisse quand même un peu la surprise.
Alors, et encore, j'étais plutôt content d'être avec Vadim Maslov parce que j'aurais pu être avec Miss Elisabeth.
Oh oui.
C'est qui celle-là? C'est une Allemande pas commode.
Alors, Miss Elisabeth...
Elisabeth Schragmüller, de son vrai nom.
Exactement. On la décrit un peu comme étant une dactylographe pour un grand philosophe. Là, pareil, il y a quelques petites subtilités et quelques petites surprises avec cette intrigue, mais je ne peux pas tout vous dire. Juste que oui, en effet, Miss Elisabeth est, je pense, un petit peu la moins aimable au premier abord de tous les personnages. Mais en tout cas, son intrigue est très intéressante, comme toutes les autres d'ailleurs. Voilà, mais je ne peux pas trop vous en dire, c'est vraiment celle-ci, il faut garder vraiment un peu la surprise.
Alors, qu'est-ce que vous me dites de Vincenzo Moni, un ancien représentant de commerce italien qui fait office de barman ce soir-là, mais c'est une couverture.
Et tout à fait, c'est une couverture. En réalité, donc, les gens qui prennent part à son intrigue vont être un peu ses yeux et ses oreilles parce qu'il faut qu'il soit au courant de tout. Pourquoi ? Vous le découvrirez, mais en tout cas, il va se passer beaucoup de choses et il a besoin de savoir tout ce qui se passe pour être sûr d'être tranquille à la fin de la soirée.
Alors vous l'avez compris, on va pas arriver à tirer beaucoup de choses concernant l'intrigue de la part de Tara Caillet ou de Carlotta Antonucci. Essayons de décrire le dispositif. C'est un bar avec trois espaces différents.
Tout à fait.
Décrivez-nous. On rentre
dans le bar. Donc le premier niveau, le rez-de-chaussée, il y a le comptoir du bar où vous pourrez prendre votre cocktail, etc. Il y a aussi un étage qui est un peu, on va dire, réservé pour des débriefings. C'est ce qu'il faut toujours un petit peu débriefer. Il y a beaucoup d'informations qu'on va vous demander d'aller chercher, etc. Donc souvent, on fait des petits points pour être sûr que tout le monde a les bonnes infos, tout le monde comprend et on est dans la bonne direction. Et il y a le salon de Mata Hari, salon privé. Et là, c'est pour les scènes privées avec Mata Hari où tout le monde ne peut pas nécessairement venir voir ce qui se passe ou écouter ce qui se passe. Ou alors, il faut être assez discret. Mais voilà, c'est pour des informations, on va dire, un peu plus en huis clos pour chaque groupe.
Alors, quand on pense immersion, on pense à des intrigues historiques un peu mal ficelées et plus ou moins bien écrites. Tara Caillet, vous avez mis un point d'honneur à soigner l'écriture.
Oui, parce que déjà, je voulais faire honneur à Mata Hari, à cette femme, et à toute son histoire, à toutes les personnes, tous les personnages qu'il y a aussi dans l'histoire qui ont réellement existé.
Rappelons brièvement qui elle est. Hein,
Alors, Mata Hari, c'est une jeune femme qui a été connue pendant la Première Guerre mondiale pour traîtrise. On l'a accusée de travailler pour les Allemands, pour les Français aussi, enfin voilà. Et au-delà de ça, c'est une danseuse qui faisait de l'effeuillage.
Alors, à l'origine, elle avait décidé que son sort passerait par celui des hommes et elle avait décidé de profiter des hommes qu'elle allait rencontrer dans sa vie pour progresser socialement.
Tout à fait. Et elle s'est, je pense, elle a décidé de... C'est une certaine façon de prendre sa liberté à une époque où, pour les femmes, c'était très compliqué. Avant d'être Mata Hari, c'était une femme, une épouse, une mère de famille. Et je pense qu'elle s'est détachée de ça pour prendre sa liberté dans une société, dans un monde où c'était très difficile.
Carlotta Antonucci, je ne veux pas sursignifier le texte, mais Nally Jens comme Mata Hari, ce sont des femmes fortes dans une époque où on considère la femme comme une juste une denrée consommable.
Tout à fait. L'histoire d'Anna, qui est vraiment la meilleure amie de Margaret, Mata Hari, dans la vie. Tara a travaillé aussi pour retrouver des archives sur cette Anna Lindstedt. Et c'était aussi une femme qui s'est beaucoup battue. Ouais, elle a vraiment suivi, là dans notre histoire, elle suit Margaret Mata Hari à Paris et elle essaye de trouver une autre vie que celle qu'elle a en Hollande, où elle est gouvernante, où elle vient d'une famille assez précaire. Et donc, oui, elle se bat comme beaucoup de femmes à l'époque et comme tous nos personnages féminins,
tout à fait.
Qui ont des particularités évidemment différentes, mais oui, c'est des personnages féminins très forts et c'est très agréable à défendre, du coup.
Ce qui n'empêche effectivement Mata Hari, que vous jouez, Tara Caillet, de mettre en avant ses charmes lors d'une danse très, très, très lascive.
Bien sûr, bah après ça fait partie du jeu aussi. Mata Hari est connue pour ça, pour ses danses un petit peu sensuelles. Du coup, je trouvais ça dommage de faire une pièce sur elle sans montrer cet aspect-là aussi qui est un des piliers de Mata Hari finalement. Donc je voulais pas non plus que ça soit central, donc c'est important qu'il y ait ce moment de danse et il se passe plein de choses très belles et très intéressantes, mais que le plus important soit quand même notre façon de voir et d'interagir avec elle, de comprendre vraiment ce qui s'est passé, de prendre part et de se dire ok, est-ce qu'elle est coupable ou pas, vous pourrez vous faire votre opinion, c'est pas la danse le plus important, c'est vraiment ce que vous allez apprendre sur toute cette affaire.
Alors, ce qu'on va apprendre, et vous le dites à la fin du spectacle, il y a 70% de faits historiques dans votre écriture.
Exactement, ouais, j'ai voulu... parce que Mata Hari est assez méconnue en réalité. On pense que ça a été une très bonne espionne,
pourtant,
etc.
Pourtant, il y a eu beaucoup de films et beaucoup de
pièces.
Mais
bien sûr, et je les ai vus. Et après avoir lu beaucoup de documents, parce que pendant longtemps, les documents sont restés sous scellés. Donc, je ne sais plus, il y a peut-être 10 ans, même pas, que tout est ressorti. Enfin, pas tout, mais une partie. Et en fait, en lisant ça, on se rend compte qu'en fait, Mata Hari n'était pas une super espionne du tout. Au contraire, ça ne l'intéressait pas nécessairement. Et je voulais vraiment remettre l'église au milieu du village un peu et dire, écoutez, on vous en parle de cette façon, mais réfléchissons un peu plus, regardons ce qu'il y avait autour et comprenez qu'en fait, l'histoire de cette femme est beaucoup plus compliquée. On ne vous la raconte pas nécessairement, pas de la bonne façon, mais pas de la réelle façon. Donc c'était important pour moi qu'il y ait beaucoup de choses avérées et bien sûr il y a de l'improvisation, donc parfois on part un petit peu en freestyle avec les spectateurs, mais c'est normal.
Vous êtes sur Aligre FM et dans Radio Scénique, on est avec une partie de la troupe de la dernière danse de Mata Hari.
By doing of this and of that,
Mata! Mata Hari, Mata Hari. Oh, what a wicked girl was she. That's the kind of girl I'll never be. Mata Hari, Mata Hari. That's the kind of wicked girl I'll never be.
Mata Hari had a very wicked reputation. She was willing to be thrilling for her information. She would weave her magic spell, then she'd make them kiss and tell. For her, the men all had a yen, yet Mata never hid. That's why I want to pull the stunt that Mata Hari did.
Mata Hari, Mata Hari. Oh, what a wicked girl was she. That's the kind of girl I shouldn't be. Mata Hari, Mata Hari. That's the kind of wicked girl I shouldn't be.
Mata's wiles were sinister toward a big prime minister. Handsome guards were in a stir, and a king or two. Once inside the castle gate, Mata'd never a vacillate. Vassal she would wrestle till she got her due. Somehow she would steal the secret documents, and then they would ask her back to steal some documents again.
When Mata Hari had a very wicked reputation, she was willing to be thrilling for her information.
In the end, she never knew fool or friend or who was who.
For her, the men all had a yen, yet Mata
Radio Scénique par Éric Dauterre. Le théâtre sur Aligre FM.
Et oui, tout le monde dans le studio chante Mata Hari. Et c'est avec la dernière danse de Mata Hari au Vieux Carré dans le 11e qu'on plonge en 1916 en pleine histoire d'espionnage franco-allemand. Tara Kayev, vous occupez le rôle titre. Vous êtes l'autrice, metteur en scène de ce spectacle. Et Carlotta Antonucci, vous interprétez Anna Lindgens. On peut également citer Jimmy Condaminas et Étienne Faure.
Tout à fait.
J'en oublie certainement.
Il y a aussi Johanna Flao, Axel Sten, Kurt Dielewitz. C'est le rôle sur lequel est Étienne Faure. Il est en alternance avec Antoine Audi.
Alors, Carla Antonucci, je vais m'adresser à la comédienne. Comment est-ce qu'on arrive à improviser sans le support de ses camarades comédiens? Parce qu'on l'a dit, le public, il est séparé en quatre groupes, chacun relié à l'un des personnages, c'est-à-dire qu'il y a un comédien et des non-comédiens, donc le public qu'on est. Comment ça marche? Comment est-ce qu'on y arrive? Parce qu'on n'a pas la réplique. Hein.
Alors, on s'entraîne beaucoup. Alors, c'est un peu particulier en répétition. Du coup, on passe des heures à se piéger avec nos partenaires, à se poser énormément de questions. Et puis avant, c'est tout un travail du passé du personnage. C'est-à-dire que c'est ce qu'on peut faire dans du théâtre frontal. Mais là, en immersif, on ne sait pas ce que le public va nous poser comme question. Ils adorent nous piéger. Donc, les professionnels de la Première Guerre mondiale et de Mata Hari, ils sont très piégeux. Puis ils s'amusent, c'est normal. Donc, ça va être un gros travail de recherche sur le personnage, d'inventer toute sa vie, d'avoir des informations qu'on n'utilisera jamais pendant la programmation, de combien de frères et sœurs, comment s'appelle la mère du personnage, toute la relation avec Mata Hari, évidemment, parce que c'est surtout ça qu'on vient me demander. Donc oui, c'est un gros travail avant qui est hyper intéressant, que j'avais jamais fait aussi profondément. Et après, c'est beaucoup de répétitions avec nos partenaires, de refaire tout notre parcours. On n'a aucun partenaire de jeu, mais toute l'équipe nous pose des questions pendant une heure et demie.
Alors, Tara Kayev, vous avez prévu une alternance entre des scènes d'impro et des scènes fixes. C'est-à-dire qu'à un moment, on se retrouve, et c'est l'intrigue, hein, c'est la danse de Mata Hari où il va se passer quelque chose qu'on ne va pas révéler ici. c'était pour recentrer l'action et retomber dans une forme de spectacle un peu plus classique pour donner la possibilité aux spectateurs de suivre l'intrigue.
Tout à fait. Du coup, je trouvais intéressant dans l'immersif, parce qu'il y a différents types d'immersif, je trouve ça intéressant quand le spectateur a vraiment des choses à faire, mais il y a aussi, bien sûr, des moments où il faut que nous, on suive notre fil pour que l'histoire avance comme il faut. Donc, d'où l'alternance d'improvisation et de scènes fixes. Pendant les scènes fixes, les gens apprennent des informations, on va dire, un peu génériques sur les personnes qui suivent, qui est dans la soirée, etc., ce qu'ils vont devoir faire. Et pendant les moments d'improvisation, là, par contre, on réalise l'émission, on s'intéresse un peu plus à la personne à qui on est en face, même si c'est un spectateur, hein, parce que le spectateur aussi, il cache des choses, parce qu'il sait des choses. Donc voilà, et finir beaucoup plus, on va dire, frontalement, de façon un peu plus classique, parce que je voulais montrer aussi, mettre en avant la version de Mata Hari, on va dire, pour qu'ils connaissent la vraie histoire un petit peu à la fin et qu'ils soient attentifs complètement à ça.
Le rapport est complètement biaisé entre le spectateur et l'acteur. Moi, j'étais à la table de Vadim, ce soldat russe, et vous descendez l'escalier, hein, et vous êtes dans cette espèce de robe robe extrêmement... comment dire, donnez-moi un qualificatif.
Laquelle? Il y a plusieurs robes.
La robe, vous descendez, vous dansez, et à ce moment-là, on est tellement proche du comédien qu'on se sent voyeur plus que regardeur.
Oui, ben c'est très intéressant parce que je le vois sur le regard des spectateurs qui sont plus proches de moi, un peu moins sur ceux qui sont plus éloignés. Mais oui, il y a ce côté voyeur, et en même temps, les gens qui venaient voir Mata Hari avaient aussi ce côté voyeur, et ils recherchaient ça, et Mata Hari recherchait ce regard-là aussi quelque part des autres. Donc, ça fait partie du jeu. Et franchement, on a eu que ça depuis le début, des personnes très respectueuses. Les personnes sont souvent plus mal à l'aise que moi quand je danse. Ça me rassure énormément, du coup. Tout va très bien.
Pourquoi vous avez choisi cette forme d'écriture-là, plutôt que d'une intrigue sur scène face à des spectateurs?
Je voulais laisser la possibilité à tout le monde de se faire sa propre opinion sur Mata Hari. Plutôt que de se dire, oui, on connaît l'histoire, espionne traîtresse. Ou de se dire non, pas du tout, elle s'est fait avoir. Je voulais laisser vraiment 100% les gens choisir. Et bien évidemment, selon l'intrigue qu'ils ont choisie, ils n'ont pas la même opinion sur si elle est coupable, pas coupable, innocente, victime. L'opinion est différente. Et justement, c'est ça que je veux mettre en avant, que selon le point de départ qu'on a, une histoire a toujours plusieurs façons d'être racontée, plusieurs façons d'être vécue. Et il n'y a pas quelqu'un qui a raison, qui a tort, juste il faut se mettre à la place de l'autre pour essayer de comprendre.
En conséquence de quoi, le spectacle que moi j'ai vu dans le groupe des Russes est très différent de celui qu'auraient vu des gens qui suivent
Elisabeth ou Georges Ladoux ou Vincenzo Moni, tout à fait.
Est-ce que, au niveau jeu, Carlotta Antonucci, c'est troublant d'avoir le spectateur aussi près de vous?
On a
besoin de cette distance. Le quatrième mur a été théorisé et on a besoin de dire ici c'est la scène, c'est l'espace sacralisé et ici ça ne l'est plus. Alors quand on casse cette logique-là, qu'est-ce qui se passe?
Eh bien, on peut dire que les premières sont quand même très particulières. Moi qui suis comédienne, comme toute l'équipe depuis plusieurs années, c'est un stress que je n'avais jamais ressenti. C'est-à-dire que le théâtre, comme je le connais, et les projets comme je les connaissais, il y avait du stress, de l'adrénaline. Mais là, vraiment, les premières représentations, on se sent vraiment, oui, ils sont très, très proches de nous. Et puis, petit à petit, on s'en amuse et c'est génial parce que chaque samedi est différent et qu'on ne sait pas ce qui nous attend. Et comme on est prêt à le vivre, eh bien, on s'amuse beaucoup après.
Alors, entre nous, vous avez déjà eu des spectateurs pénibles, en dehors de ceux qui vous demandent l'alpha et l'oméga de l'histoire de la première Guerre mondiale?
Pénibles, non, joueurs. Je sais pas ce que tu en penses.
Moi, je suis assez d'accord, plutôt joueurs ou bien des personnes qui ont du mal à faire la différence entre là, c'est du jeu, et là, on est en 1916, on n'est plus en 2026. Bon, à chaque fois, on essaye de rattraper un petit peu, mais... Bon, parfois, c'est un peu plus compliqué, mais c'est toujours assez drôle en réalité. Ouais. C'est challengeant pour nous.
Ouais. Alors, il faut préciser, c'est que vous êtes costumé. Hein. Vous
Tout
avez
à fait.
Les costumes de 1916 qui vous distinguent du commun des mortels. Ce spectacle, il revêt une forme tout à fait particulière. Là, on est à mi-programmation.
Oui, à peu près.
Qu'est-ce que vous en tirez de cette expérience? C'était votre première pièce immersive?
Oui, c'était la première. Alors, on a fait une saison l'an dernier déjà, mais oui, c'est la première pièce immersive que je fais, que j'écris. Déjà, je suis très contente en réalité, pas de l'équipe, de l'engouement, des retours des gens, parce que je vois que ça leur plaît et c'est le plus important. Je suis très contente de ça. Que les gens s'intéressent du coup un peu plus à l'histoire de cette femme. Je suis très heureuse de ça aussi. Et ça me booste pour la suite. Hein. Moi, je suis très contente de l'équipe, donc j'espère qu'on va faire autre chose très bientôt.
Alors, il nous reste une toute petite minute pour parler du lieu. Pourquoi ce lieu? Pourquoi un bar?
Parce que je voulais, pour aller encore plus loin dans l'immersif, allons dans un bar directement, comme ça, le spectateur n'a pas le choix. Il est plongé dans la soirée tout de suite, d'où le cocktail aussi qu'il a offert pendant la pièce. Et pourquoi le Vieux Carré? Parce que je connais très bien ce bar, que les propriétaires sont des amis et de très bons mixologues et que je voulais mettre en avant leur travail, tout simplement.
Eh bien écoutez, Tara Caillet et Carla Antonucci, merci.
Merci à vous. I'm gonna go get some more.
fin de ce numéro 27 de Radio Scénique, votre magazine de la création théâtrale sur Allegre FM. Janowski est auteur et compositeur de la comédie musicale Adèle Berry et Adèle Hauser, titulaire du rôle-titre, était avec nous en studio. Merci à tous les deux. On attend avec impatience la reprogrammation dans un nouveau lieu de ce formidable spectacle. On vous tiendra au courant de Radio Scénique. En attendant, on communiquera les dates des spectacles de Janowski sur la page de notre émission sur le site de la radio allegrefm.org. Un grand merci également à notre duo de choc, Tara Kaya et Carlotta Antonucci. Elles sont respectivement autrices, metteuses en scène, interprètes du rôle-titre et interprète d'Anna Lynchens. Ça se passe tous les samedis à 16h30 au bar Le Vieux Carré, dans le 11e. Et petite info, comme c'est un bar, un cocktail est compris dans le prix du spectacle. Moi, j'ai pris celui à la vodka, il était délicieux. Merci à Pierre Demkoff qui m'a assisté et qui a assuré la programmation musicale brillante de cette émission. À la technique aujourd'hui, il y avait Enrico Mastrogiovanni. Merci encore à lui. Vous retrouverez cette émission d'ici quelques jours sur le site d'AllegreFM.org, rubrique Nos émissions puis Radio Scénique. Je répète, AllegreFM.org, rubrique Nos émissions puis Radio Scénique. On se retrouve dans deux semaines sur Allegre FM 93.1 à 10h. D'ici là, allez au théâtre, c'est là qu'est la vie. Restez à l'écoute d'Allegre FM.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.